Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet. Et sauf erreur de ma part, demain c'est le 14. C'est-à-dire à la fête nationale. Jean-Pierre, quand il a introduit ce moment tout à l'heure, il a lu dans Jean 17 ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il a parlé ce que Jésus disait par rapport à ses disciples. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Quelque chose d'un peu comme des extraterrestres, hein, dans le sens du mot, extra, hors d'eux, hors de la terre. Oh, il y en a qui cherchent les extraterrestres, je ne sais pas trop où, mais il y en a là, puisque nous ne sommes pas du monde. Même se nier dans le monde. Chacun a un pays où il est né, c'est sa patrie. Ce mot patrie vient de père, hein, celui qui a donné le jour. Des monuments aux morts rappellent, dans chaque village, dans chaque ville, que des hommes ont donné leur vie pour leur patrie, qui était envahie. Que je sois français de naissance ou par mon état civil, la France, donc, est ma patrie. Et de ce fait, j'ai le devoir de la défendre. Car si elle me donne des droits, elle me donne aussi des devoirs. Mais pour nous, chrétiens, si la France est notre patrie, elle reste une patrie temporelle. Car nous entrons par notre nouvelle naissance dans une patrie céleste, celle des cieux, qui m'accorde aussi des droits et des devoirs. Alors une question pour chacun aujourd'hui, et pour moi le premier, quelle est ma patrie, celle que je sers? Est-elle terrestre uniquement, c'est-à-dire temporelle? Ou céleste, éternel. En effet, le Seigneur a dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Notre patrie temporelle nous offre plus de contraintes, d'inégalités, d'injustices, malgré la belle devise de la France, liberté, égalité et fraternité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors que notre patrie céleste nous offre amour, paix et liberté. Le choix entre les deux est donc vite fait, fait tout au moins pour moi, quoique. Nous allons faire une lecture, si vous voulez bien, dans le livre de Daniel. C'est juste après Ézéchiel, hein. Au premier chapitre. Et pour ne pas le sortir de son contexte, nous allons lire tout le premier chapitre de ce livre de Daniel. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de race noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Ananias, Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et que nous donnent des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui les amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc amis au service du roi. Sur tous les objets qu'ils réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume, dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. J'ai lu en entier ce chapitre pour replacer ce que nous allons méditer dans son contexte. Daniel, un exemple de la fidélité à Dieu dans l'épreuve, non seulement de l'exil, mais aussi comme prisonnier, donc privé de liberté. Le roi Nebuchadnezzar marche contre Jérusalem, contre le roi de Babylone marche contre Jérusalem et la siège. Babylone, c'est curieux, je regardais le dictionnaire biblique et il est dit que c'est la porte de Dieu. C'est là que les hommes construisirent la tour de Babel. Et cette ville est en opposition avec Jérusalem. Elle représente le monde, mais elle sera détruite selon Apocalypse 18. Et l'Éternel livre entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, à cause de son infidélité et de son idolâtrie, ce qui entraînera tout le peuple d'ailleurs à l'exil et au servage. Cette réflexion m'en amène une autre, que je mets entre parenthèses. N'en est-il pas de même encore aujourd'hui ? Ou de l'infidélité, pour l'avoir vécu moi-même, l'infidélité d'un serviteur dans une église a dispersé l'église, finalement. L'histoire se répète. Je ferme la parenthèse. 4 jeunes gens de Juda, issus de familles royales ou nobles, sont emmenés prisonniers à Babylone. 4 jeunes gens issus de familles royales ou nobles. nous sommes issus par notre Seigneur Jésus-Christ de sang royal. N'est-il pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Première épître de Pierre, chapitre 2. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ces quatre jeunes gens avaient été choisis, parmi sans doute un grand nombre, pour servir un roi étranger en terre étrangère. Aujourd'hui, nous ne risquons plus cela, mais par contre, un roi étranger, étranger à l'Évangile, Satan, pour ne pas le nommer, veut retenir quiconque prisonnier. Il aimerait bien que ses prisonniers le servent. Satan, toujours lui, avait voulu tenter le Seigneur. Vous savez, quand il avait été emmené dans le désert, afin de la servir, tout simplement, si je puis dire. Il veut faire de même avec chacun de nous, afin que nous le servions. C'est toujours d'actualité. Alors, quels sont mes devoirs et mes droits envers ce roi étranger? Simplement de ne rien accepter de ses coutumes, de ses habitudes, de ses rites. Comme Daniel, qui résolu, il nous est dit de ne pas se souiller avec les mets du roi. Le prince de ce monde propose aux hommes une nourriture royale, mais temporelle. Cette nourriture, je l'appellerai réussite sociale, professionnelle, intellectuelle, argent, loisirs, plaisir. Ne pas se souiller avec les mets du prince de ce monde. Car un prisonnier, aussi bien nourri soit-il, il est toujours prisonnier. Et il n'aspire qu'à une chose, c'est de se sauver. Il aspire le jour de la délivrance. Est-ce qu'on aspire encore, nous, le jour de la délivrance? Le pseudo-confort que veut m'offrir Satan, que offre Satan aux hommes, ne doit pas me faire oublier que je suis dans ce monde, mais que je ne suis pas de ce monde. Car il s'agit bien d'une délivrance, quand le Seigneur viendra chercher les siens pour être toujours avec lui. Daniel et ses amis, nous l'avons lu, acceptent leur sort. Mais ils ne veulent pas oublier le pays de leur naissance. Et puis encore, abandonner leur foi pour servir un roi étranger. Ce roi étranger les a non seulement amenés prisonniers, loin de chez eux, mais il va jusqu'à leur changer leur nom. Nous l'avons lu. On va leur donner des noms étrangers pour eux. Inversement, lorsque nous serons avec le Seigneur, on va recevoir un nouveau nom qui nous est dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, un nom qui ne sera connu que par celui qui le reçoit. Mais c'est le chemin inverse. Oui, Daniel veut rester étranger, indépendant du roi qui le retient captif. Il est résolu de ne pas se souiller avec l'aimé du roi, qui pourtant doit être délicieux. Le roi Nebuchadnezzar, ce n'était pas n'importe qui. Il doit avoir des cuisiniers de premier ordre. Il est résolu. Avons-nous résolu de ce que nous voulons faire? Soit s'adapter au monde, puisqu'on y est dedans, soit de ne pas prendre tout ce qu'il nous propose. Prendre une résolution, c'est arrêter une décision ferme et définitive. Et notre vie est une suite de résolutions, heureuses ou malheureuses. Est-ce que je vais nourrir mon âme avec des mets du roi, c'est-à-dire les mets que me propose ce monde, ou bien est-ce que je vais prendre la résolution de la nourrir avec la parole de Dieu? Jésus dit au diable, quand il l'avait tenté, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4. Pour Daniel et ses amis, le résultat de leur résolution va convaincre celui qui devait s'occuper d'eux. Car au bout de 10 jours, il nous est dit qu'ils avaient le visage, un meilleur visage et plus d'embonpoint que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Extraordinaire cela. Ce qui me permet de dire qu'en se nourrissant de la parole de Dieu, on aura des visages bien plus rayonnants et bien plus enviables que ceux qui nourrissent des mets de ce monde. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ésaïe 55. Les mets que le monde propose aux hommes ne rassasient pas l'âme. C'est pourquoi il y a tant et tant de détresse, de dépression, d'inquiétude. Et la joie que peuvent procurer ces mets ne sont qu'éphémères. Les viandes de la table du roi Nebuchadnezzar étaient souvent issues d'animaux sacrifiés aux idoles. Et c'est sans doute en connaissance de cela que Daniel refusa d'en manger. Il ne se fit servir que des légumes. Il refusa même le vin. Ce vin qui réjouit, comme nous est dit dans le psaume 104, réjouit le cœur de l'homme. Mais qui, par l'abus, fait perdre la raison aussi. Daniel ne veut pas manger des choses impures aux yeux de l'Éternel. Il veut rester lucide pour mieux servir son Dieu. Ainsi, frères et sœurs, refusons toute nourriture pour nos âmes qui soit souillée par l'idolâtrie et pour tout ce qui pourrait nous enivrer. Il n'y a pas que le vin qui enivre. Un homme ivre n'a plus son bon sens, c'est pas très beau d'ailleurs. Il titube. Il n'arrive plus à articuler des sons et des phrases cohérentes. Daniel ne se rebella pas de sa condition de prisonnier. Il servit, nous a dit, le roi Nebuchadnezzar avec zèle. C'était son devoir. Mais il se garda le droit de servir son Dieu en refusant de s'intégrer aux coutumes du pays qui le retenait captif. Et si on lisait tout ce livre de Daniel, on s'apercevra que sa fidélité à Dieu va l'emmener dans des situations assez difficiles. Vous savez, dans la fournaise avec ses amis, dans la fosse lion. Et chaque fois, l'Éternel l'a secouru. Nous faisons une petite lecture dans Hébreux 11, 11, verset 13. Ce chapitre 11, c'est la longue série de ce que par la foi ont fait beaucoup d'hommes. Mais nous lirons à partir du verset 13, c'est dans la foi donc, que tous ces hommes sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils n'auraient pas eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ils avaient reconnu qu'ils étaient pèlerins et voyageurs, ou étrangers plutôt, et voyageurs. Sommes-nous aussi des étrangers pour cette terre et des voyageurs? Notre frère Joël, ici, il est voyageur, représentant de commerce. Et il est chargé de représenter ton patron et vanter la qualité de ce qu'il a à proposer. Le Seigneur fait de nous aussi des voyageurs. Avoir la foi suffisante pour tenir ferme dans notre assurance de n'être plus de ce monde. Est-ce que notre foi est suffisante? Ou subissons-nous encore l'esclavage imposé par Satan? L'apôtre Paul a dit, soyons soumis aux autorités. Jésus est allé plus loin, rendons à César ce qui est à César. Autrement dit, servons-les, c'est-à-dire le monde, servons-le, en se rappelant ce n'est que temporel. Parce que nous, notre patrie est céleste. Et le Seigneur fait de nous des ambassadeurs, des voyageurs. Un ambassadeur a pour charge de représenter les intérêts de son pays, et uniquement les intérêts de son pays. En aucun cas, il n'a le droit de s'ingérer dans les affaires du pays dans lequel il est ambassadeur. En aucun cas. Le Seigneur nous demande de travailler pour lui dans ce monde, mais ce monde doit rester pour nous étranger. Et nous devons en refuser tous les avantages qu'il peut nous proposer. Parce qu'il a pour nous et pour chacun de nous en réserve de grandes bénédictions qui vont bien au-delà de tout ce que peut nous proposer le monde. Est-ce que le monde me considère comme un étranger? Une fois, on m'a dit que j'étais un extraterrestre. Je suis bien content d'entendre dire, je le revendique. Est-ce que l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur de le suivre, de le servir, fait de moi un étranger pour le monde? Si, comme Daniel, nous savons rester fidèles à la parole de Dieu, fidèles à notre Père qui est dans les cieux, nous n'aurons rien à craindre des hommes soumis à Satan. Il est vrai, il ne faut pas se le cacher, que le Seigneur nous éprouve. Il éprouve notre fidélité et notre foi, comme il l'a fait avec beaucoup de ses serviteurs au travers des siècles. Mais je pense que cela, et là, ce que je dis n'engage que moi, mais c'est pour ne pas oublier que nous ne sommes pas de ce monde, que notre patrie est céleste. Si j'étais trop bien ici-bas, quand on est trop bien quelque part, on va finir par s'endormir, finir par oublier que l'on n'est plus de ce monde. Seigneur, n'envoie aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Mais il nous accompagne au travers de nos difficultés. Et ces difficultés nous rappellent sans cesse que notre patrie est ailleurs et que nous aspirons à y venir un jour, à y entrer un jour. À entrer dans ce monde nouveau où rien ne sera comparable à tout ce que nous pouvons voir et connaître en ce monde ici. Pour défendre la liberté de sa patrie, lorsqu'elle est attaquée, un bon citoyen doit jusqu'à donner sa vie. Suis-je prêt à donner ma vie pour défendre l'honneur de ma patrie céleste lorsqu'elle est attaquée? Parce que défendre l'honneur de la patrie, comme je disais, patrie vient de père, c'est défendre l'honneur de mon père qui est dans les cieux. Défendre l'honneur de notre père qui est dans les cieux. Le Seigneur, nous allons tout à l'heure le rappeler, et a donné sa vie pour nous libérer. Nous étions prisonniers. Des hommes encore dehors sont encore prisonniers du péché, de Satan. Le Seigneur est allé donner sa vie pour nous libérer et pour nous permettre d'entrer dans cette dimension de la vie éternelle avec lui, pour nous tenir debout devant son trône. Des hommes, parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur pays de naissance, au risque de leur vie, souvent, nous le voyons dans les informations, la télévision, décident de quitter leur pays avec leur famille. Ça nous est rappelé sans cesse avec les drames qui s'y passent. Pour venir dans un nouveau pays, pour entrer dans un nouveau pays, afin d'y avoir une meilleure vie que ceux qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Il ne faut vraiment pas se sentir heureux là où l'on est pour tout quitter. Parce que je ne suis pas heureux dans ce monde. Parce que j'ai envie de le quitter. Pour moi, oui. J'aurais bien envie d'avancer un peu. Le Seigneur me tient là. Mais vous savez, le jour que je partirai, gloire à Dieu. Et chacun aspire, n'est-ce pas, à ce jour. Et peut-être tout à l'heure, qui sait, demain. Jésus-Christ nous offre et offre à chacun qui ne se sent pas heureux sur cette terre, une nouvelle patrie. Qu'il accorde à tous par la nouvelle naissance, nouvelle naissance qui est indispensable pour entrer dans ce nouveau pays, pays éternel, qui n'aura pas de fin. Certains qui viennent dans nos pays veulent bien profiter des avantages que ce pays peut leur offrir. Pays d'adoption. Mais beaucoup refusent d'en accepter les devoirs, d'où les conflits d'ailleurs, politiques. Il en est de même de ceux qui voudraient bien aller au paradis, mais ils ne veulent pas en accepter les devoirs. Pourtant Jésus n'a-t-il pas dit « Prenez sur vous mon joug sur vous, car mon joug est doux. » Et mon fardeau est léger. Alors, il n'y a pas de crainte. Changer de nationalité. De citoyen du monde, devenons citoyens des cieux. Et soyons fiers de notre nouvelle patrie, qui nous donne sans limite ni restriction, amour, joie, paix et vie éternelle. L'hymne français commence par ces mots, allons-en, allons enfants de la patrie. Demain, ça va être le chant en premier. Moi, je vais vous dire, allons enfants de la patrie céleste. Le jour de gloire de notre Seigneur vient. Le jour de gloire de notre Seigneur vient. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.